Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 15 décembre 2007 et il reste 10 petites cases sur le calendrier de l'Avent.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec le le top DVD, la sortie DVD et la télévision.
Suivi de...
Ça c'est du sport, résultat sportif, on ira avec des WC à l'infirmerie.
Et ensuite...
Zarma Farai, c'est du reggae, c'est à 15h. Ça c'est de la bonne viande, c'est à 17h et c'est la charcutaille. À 18h, Big Bang, à 19h, c'est petites olives avec APO. 20h, la CTO Experience, 21h30, 9 Love, See You Step, et à 23h, le potager. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Tout le monde va bien, ça va, la folie, un peu des courses et tout le
nickel,
reste.
Nickel, un peu frisqué mais ça va.
Un peu frisqué, ouais. Moi ça a été un peu chaud, je n'ai même pas réussi à faire mes chroniques BD dans les temps.
Mais non, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est que tu dis...
Oh temps, mais, nous sommes, mais nous sommes à 10 jours de Noël et les magasins sont ouverts demain.
Et voilà,
dimanche prochain.
Voilà.
Donc, on vous fait une petite liste de Noël qui devrait satisfaire, je suis sûr, des gens près de chez vous. Eh ben oui, bien sûr. Non. Bande originale de Ghost in the Shell, Secrets. Solid Secret Society.
Solid State Society, pas Secret.
Soldier that's living in this soap, that's right, so close your eyes and play the game and I'll make you fight. Come on, it's a team.
Yoko Kanno, Player, avec au chant Origa with Earth Dales, et qui chante en russe. Bande originale de donc Solid State Society, voilà, je vais
bravo
y arriver. Super, merci. Ce qui signifie
eh ben, l'état solide.
Non, mais pourquoi Solid State? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah bah moi je sais parce que j'ai vu le film, mais vas-y dis-moi.
Solid State, c'est tout simplement, c'est référence à tout ce qui est électronique et qui c'est pas des condensateurs liquides qui coulent, etc. C'est donc toutes les puces, toutes les micro-puces ou tout, et les transistors en fait.
D'accord.
Pour résumer, voilà. Mais ça veut dire autre chose dans...
Oui, tout à fait.
Voilà. Je l'ai pas vu, je tiens à le signaler. Et donc ce sera la chronique de Thomas tout à l'heure. D'un autre côté, je tiens à signaler que nos amis de 6M1P, qui est donc la revue gratuite artistique Toulouse, qui est emmenée par deux étudiantes complètement férues d'art graphique, vraiment assez exceptionnel, un très très beau tirage. Ils fêtent leurs 2 ans, c'est au Théâtre Garonne tout à l'heure, à partir de 19h, donc une petite fête donnée en leur honneur, avec DJ Set de Lego. C'est du trip-hop hip-hop. 20h30, live de Fedaden, c'est l'électronica mélancolique. Ray Valentine, breakbeat hip-hop comédie. Et ensuite un set de Magist électrique et éclectique acoustique. Donc voilà, sachant que donc il y aura une mise en espace avec tout un espace et tout le reste. Donc c'est tout à l'heure au Théâtre Garonne à partir de 19h et l'entrée n'est pas indiquée. Je suppose qu'elle est gratuite. Mais je pense que ce serait bien aussi de soutenir cet assaut, voilà. Et aussi on passera en interruption musicale tout à l'heure, puisqu'ils sont en concert le même soir sur Toulouse, Stéréo Total. Et ça c'est à l'île du Ramier, on verra ça tout à l'heure. Thomas, quoi de neuf?
Ben là comme ça, je sais pas.
D'accord, merci de votre participation. Du sport, quoi de neuf?
Le café va être prêt.
C'est sympa, merci. Ce sera pas de refus, parce que là il y a de la causette.
Quoi, il y a Nicolas qui revient ou quoi?
Non, mais je lui fais mes spéciales dédicaces pour me pinguer de plein de messageries instantanées pendant que je suis en train de taper mon émission. Et donc ça m'a fait craquer, voilà. Donc du coup, j'ai fait un top 10. Un top 10 des bouquins qui sont sortis sur le dernier semestre qui, à mon sens, valent le coup d'être découverts ou redécouverts et d'être réclamés à corps et à cri à Petit Papa Noël sur la liste. ou que l'on peut offrir. On avait déjà fait le coup le 7 juillet dernier avec une sélection de 10 bouquins. Il y avait My Way de GD, DMZ, la série de Brian Wood et Riccardo Borchielli, qui est la grosse claque, qui est un peu la suite de la Seconde Guerre civile, War de Jericho. Warren Ellis et J.H. Williams III avec Desolation Jones. Il y avait le Sarko premier, la suite de...
La face cachée de Sarkozy.
Voilà, excuse-moi. Seul de Fabien Vellman et Bruno Gazzotti, donc avec des enfants qui se retrouvent tout seuls dans une ville. Reality show de Morvan et de Possel. Il y avait les Seven Soldiers of Victory, le premier tome donc, avec toute une pléiade de stars du comics. Les Nombrils, qui est une bande dessinée adolescente assez étonnante. Le biotope de Apollo et Bruno, dont on a chroniqué le tome 2 récemment, et le Docteur Koto de Takatoshi Yamada. On en est au tome 5 ou au tome 6, je ne sais plus exactement.
Et t'as pas parlé de Preacher alors? Tu l'avais pas mis dans ta sélection?
Je crois qu'il fallait que je me limite à 10. Ah, et je crois et là, aussi que c'est... Non, mais je crois surtout que Preacher, c'est une réédition, mon cher ami, que j'ai chroniqué il y a 10 ans.
Mais oui, mais c'est quand même une réédition.
Ah, t'étais pas dans l'émission.
Angoulême, les rééditions, elles concourent aussi pour le prix de l'album, il me
semble. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le festival d'Angoulême, on tapera dessus tout à l'heure, enfin en cours d'année et tout ça. On en reparlera plus tard. On va commencer cette sélection avec Orbital, puisque le tome de Rupture a été chroniqué dans cette émission en octobre dernier, sur un scénario de Sylvain Runberg et un dessin de Serge Pellet, où en fait c'est l'histoire de la Terre qui se retrouve un peu au banc des races intelligentes de la galaxie, parce qu'elle a fait des conneries, et ça a un peu dégénéré en guerre civile quand il a fallu rejoindre une espèce d'ONU mondiale. Et donc on suivait l'histoire de Caleb, qui a été le premier humain qui a été intégré dans une espèce en fait de troupe de diplomates, agents spéciaux chargés en fait de ramener la paix sur les planètes. On avait beaucoup vu de références dans le premier tome d'Orbital, que cela soit Valérian, que cela soit l'Incal ou encore l'univers d'Andreas. Et on se disait, mais est-ce que finalement ce n'est qu'un ensemble de références, ou est-ce qu'il y a vraiment une cohérence derrière, une BD qui vaut vraiment le coup? Et finalement, à la lecture du deuxième tome, on était sur le cul un peu de la créativité, de la cohésion de l'environnement, et oui, il y a vraiment de la création derrière, ça vaut vraiment le coup, c'est un très très beau bouquin. Sylvain Runberg, Serge Pellet, c'est de la science-fiction, space opéra, vraiment très très bien menée, avec vraiment une dimension politique, ce qui est plutôt rare en général, hein. Dans le space opéra, on met juste, ouais, on te met des étoiles, on te met plein de races extraterrestres et plein de choses étranges, mais on s'attaque pas à la politique ou à la philosophie, et là justement c'est très très bien amené. Il y a un autre bouquin justement dans cette sélection qui joue dans le même jeu et qui y arrive lui aussi. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, Sylvain Runberg et Serge Pellet. Orbital, le deuxième tome, en fait, est la conclusion donc de la première histoire, qui est vraiment à la fois émaillée d'emprunts intelligents, d'un graphisme très agréable, mais surtout d'une intrigue politique complexe, rythmée par une action très présente. Et on pense de suite à Aliens, le deuxième film, mais aussi plein d'autres inspirations. Bref, Orbital est vraiment la révélation science-fiction qu'on attendait depuis un bail, puisqu'il n'y avait pas vraiment eu de création depuis 2 ans de ce côté-là dans la bande dessinée franco-belge. Toujours dans la science-fiction, j'ai oublié de signaler que c'était dans la collection Repérage chez Dupuis. Toujours dans la science-fiction, dans la collection Made in Shikana, EO Memories de Chris Lamke. Chris Lamke avait fait une science-fiction un peu gentillette qui était sortie dans le journal de Tintin dans les années 80, Enfer Végétal et Quasar. Il avait viré dans le polar d'anticipation avec Alvin Norge chez Le Lombard. On a parlé justement que ça a fait partie de ceux qui ont ramené du sang neuf dans l'éditeur sur les 10 dernières années. Mais entre les deux, il a fait une manga de fesses pour le Japon qui est restée injustement non traduite en France. Plus de 10 ans après, non seulement les aventures ont été traduites, mais en plus complétées et terminées, puisque ça s'était terminé de manière un peu sèche, puisqu'au Japon, quand une série est lancée, eh ben, on fait régulièrement, on fait toutes les semaines un sondage dans le journal pour dire est-ce que vous aimez tel héros, ou quelle est la série que finalement vous ne lisez jamais. Et Yo Memories.
Et puis c'est vrai qu'une histoire de manga un peu sèche, c'est vrai que ça n'avait pas les chances de marcher non plus.
De quoi ?
Non, rien, c'était un jeu de mots. Vous repasserez le gag en écoutant le podcast.
Quoi ? D'accord. Enfin bon, Io Memories, c'est l'histoire en fait d'un routier de l'espace qui amène sa cargaison de minerais entre plusieurs lieux et une très chouette perspective d'une vie professionnelle et surtout enfermé dans une boîte de métal avec des robots un petit peu chiants. Et finalement, eh ben, il se décide à se faire une pute clonée, une Delon comme ça. Pour le plaisir, pour fêter ça, malgré qu'il soit à la bourre sur son planning. Malheureusement, la Delon se retrouve très entreprenante et Dobbs, se retrouve face à cette fille très entreprenante et tout ça, et qui lui dit qu'en fait, eh ben, elle est le testament de Dorian Dorian, l'inventeur du moteur à muon, et que donc sa mémoire cachée en son sein n'apparaît que quand la robot en question jouit. Plus elle jouit fort, plus longtemps la mémoire apparaît. C'était assez amusant, c'est assez frais, c'est bourré d'idées sur plein de points. Et c'est vrai que Chris Lamke, ben justement, il a amené quelque chose de très différent par rapport à son graphisme, puisqu'il utilisait énormément le niveau de gris. Je veux dire, il y avait vraiment de la texture, chose que dans le manga, on utilise plutôt des tramés, même des tramés numériques à l'heure actuelle. Et là, il y avait vraiment un effet de matière qui était intéressant et aussi une histoire qui était complètement barrée
et
loufoque.
Ah oui, à un moment donné, ça part en vrille et surtout qu'en plus, tu dis qu'il avait dû interrompre la série, qu'il a continué ensuite. On voit vraiment la jonction au niveau graphique aussi, avec deux rendus assez différents. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit aussi la façon de procéder de l'artiste qui dit « Tiens, je suis plus tenu par certains codes graphiques, donc je vais remettre mon univers graphique à moi. » Et c'est assez intéressant.
Il l'a remis à place, assez étonnant. Et ensuite, il y a aussi toutes les allusions par rapport à cette précédente série. C'est-à-dire dans Io Memories, on retrouve Quasar, le robot, qu'on retrouve par suite dans Alvin Norge, ainsi que la Lynn, la Delon de l'histoire, et se retrouve comme étant le virus méchant dans Alvin Norge, parce que le développeur qui a créé ce virus était fan de la série de BD de Lamke. Donc voilà, c'est des trucs qui se rejoignent, c'est assez amusant, c'est bien amené, et en ce sens, heureusement c'est un one-shot. Avec cette coupure en plein milieu qui est assez surprenante.
Et cette fin nonsensique qui rime à rien en fait, qui est absurde.
Ouais, parce que il y a les mises en abîme qui démarrent.
Qui s'ajoutent.
On se dit, ça va pour l'instant, je suis dans le mouvement. Et voilà. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Enfin, ça a plus de sens quoi.
Tout à fait, ouais.
Et c'est ça qui est assez amusant, c'est de voir l'histoire se construire en même temps que le lecteur la découvre. Donc voilà, Io Memories de Chris Lamke, c'est dans la collection Kana, c'est dans la collection Made In, puisque c'est une BD adulte chez Kana. Heureusement que du sport, c'est faire un bon café, parce que... Supplément week-end, midi 18 sur la poubelle des radios. Vous pouvez retrouver les chroniques BD. S'il y a une BD qui vous intéresse, un truc comme ça, c'est très simple. Vous allez sur supplementweekend.tk sans accent ni tiré et vous tapez les mots-clés. Et comme les chroniques sont déjà publiées, vous allez tomber dessus. C'est la case recherche qui est sur la droite. Voilà. Quand vous êtes dedans, c'est sur la droite. Là, vous laissez passer la vidéo si ça vous fait rire. Et puis, voilà. On va continuer avec une manhwa, une bande dessinée chinoise qui est sortie chez Chiaopan, Le Pavillon de l'Aile Ouest, de Wang Shifu et Sun Yahu et Guo Guo. Oui, il n'y a pas de quoi rire, c'est pas évident. Voilà. Et c'est une bande dessinée qui se passe dans la Chine impériale, un peu fantastique et tout ça. On a un peu l'impression de retrouver l'esprit d'histoire de fantômes chinois. C'est ça qui est vraiment très agréable. C'est-à-dire qu'il y a le côté fantastique, le côté médiéval. Bref, il y a vraiment un gros dépaysement justement que l'on retrouve dans cette série. Et c'est l'histoire en fait d'un fils de bonne famille qui va de ville en ville au gré de son humeur parce qu'il a refusé de faire avoir impérial des concours de hauts fonctionnaires et il préfère faire une vie de bohème, flânerie, totale oisiveté. Et au hasard de sa promenade dans les jardins d'un temple, et ben il tombe sous le charme d'une charmante jeune fille, légendaire de beauté auprès de tous les jeunes de la région qui espèrent enfin l'avoir de plus près. Et là, c'est le drame. Les deux jeunes se retrouvent amoureux l'un de l'autre alors qu'ils n'osent pas et que ils n'osent pas se le dire. Et finalement, c'est la servante de la jeune femme, Hong Yang, qui va faire le courrier entre les deux. Et c'est l'amour courtois qui à la française, c'est un classique justement du roman d'amour chinois par le fait de on communique de façon épistolaire par une personne tierce, etc. Bref, c'est un rêve sucré, magnifique. Et ça tombe bien, ça manquait de sucre, ce café. Le pavillon de l'aile ouest. Wang Chifu, Chun Yao, Guo Guo, c'est chez Chiopan. Frédéric Bézian nous a sorti cette année Les Garde-Fous, c'est un one-shot qui est sorti chez Delcourt, un polar assez étonnant à huis clos. On peut pas vraiment parler ça de polar puisque en fait c'est un roman d'ambiance, un suspense assez étonnant. Ça se passe dans une demeure au milieu des bois qui en fait c'est la maison d'un éditeur qui est à la mode, qui vit dans un intérieur design propre, tout intégré avec luxe, mais qu'à l'extérieur, c'est la campagne la plus absolue, un lac complètement mort, une nature complètement morbide. Bref, il est isolé au milieu de tout, avec sa femme et son père. Et là-dedans, il va se retrouver, au milieu de sa maison et à rencontrer des gens bien peu fréquentables, un peu par hasard. Et là-dessus, je n'ai pas trop envie d'en raconter plus, mais il y a l'inspecteur Fix de la police judiciaire qui vient l'interroger à propos des romans qu'il publie, qui racontent comme par hasard exactement des meurtres qui ont lieu dans toute l'Europe et qui se rapprochent de plus en plus comme une spirale infernale de ce lieu de villégiature. Frédéric Bézian est un dessinateur qui maîtrise l'encre d'une manière absolument superbe. C'est un vrai artiste multicarte, multimédia, jusqu'au bout. Il a participé, il a fait du character design pour des séries télé, notamment pour l'adaptation de
Belphégor.
Belphégor, voilà, qui était passé sur Canal+ et sur France 3. C'est aussi un musicien, c'est un acteur, il a participé à pas mal de courts-métrages, il a fait des accompagnements au piano, notamment du cabinet du docteur Caligari à la Cinémathèque de Toulouse. Et j'en parle avec émotion parce que justement, c'est quelqu'un qui arrive à transmettre une émotion très forte sans vraiment qu'on s'en aperçoive. C'est un dessin qui semble un peu rude. Et en fait, quand on se plonge dedans, il y a vraiment une beauté, il y a vraiment quelque chose qu'il arrive à faire transparaître à la fois dans son interprétation piano ou dans son dessin. C'est ça qui est très fort et très agréable. Bref, l'auteur de Chien Rouge, Chien Noir revient dans ses histoires de grandes maisons, se terre des dynasties maudites qui attendent d'être éteintes de gré ou de force. On pense tout de suite à Adam Sarlek, aux Humano. Ou encore à ces lieux clos en espace ouvert qu'il avait réussi à rendre d'une manière absolument superbe dans Chien Rouge, Chien Noir. C'était chez PMJ Édition il y a une dizaine d'années maintenant. Vraiment un one shot dramatique, une ambiance latente où l'eau d'or pourrait se muer sous la tempête. Les garde-fous, c'est de Frédéric Bézian et c'était sorti chez Delcourt. Un très très beau bouquin. Et c'est encore une fois l'occasion de découvrir un dessinateur, bon ok, régional, on s'en fout, ça n'a rien à voir. C'est un dessinateur de talent qui a énormément de choses à expliquer par son dessin, qui arrive à montrer des trucs assez étonnants et ce serait dommage de passer à côté. Enfin, Thomas, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais bon. Bézian, oui. Non.
Bah ouais, faut adhérer aussi hein, au trait. Moi, j'aime bien son côté vachement.
Oh, vous me faites chier, vous.
Non, non, le côté Bougon-Angoulême, non, j'aime pas trop, mais sinon, faut vraiment. C'est un parti pris quand même, le visuel de ces BD. Et puis même, enfin, moi, j'avais trouvé personnellement que les garde-fous, bon, le scénario était un peu léger, ça privilégiait l'ambiance. Et quand tu finis le bouquin, tu dis. C'était novateur. T'as pas l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs, ça c'est la grande qualité, mais bon, voilà. Moi j'ai pas été transporté non plus.
On parlait tout à l'heure de Valérian, encore une influence directe de Valérian, c'est Mot et CDM avec Cosmic Roger, le tome 5 s'appelle Les 12 travaux de Cosmic Roger, c'est chez Fluide Glacial, et c'est l'histoire d'un spationaute qui a été choisi au hasard d'une télé-réalité pour aller sauver la Terre de sa surpopulation hyper croissante. La Terre consomme tellement et est tellement saturée que ben il faut absolument au plus vite trouver une autre planète comme la Terre, c'est-à-dire luxuriante, agréable à vivre et tout ça, enfin agréable à vivre, c'est-à-dire sans espèces intelligentes à côté, disponible et pas trop cher. Le problème c'est que pour Cosmic Roger, c'est mission absolument impossible. Pourquoi ? Parce que ben si une planète est viable, pas cher et sans inconvénient, eh ben, elle est forcément occupée par une autre espèce d'extraterrestre parfaitement représentée par une horde d'avocats supérieurement intelligents. Et si elle est pas chère, c'est qu'elle a un gros inconvénient. Bref, Cosmic Roger, c'est du bonheur en barre. Ça sort dans Fluide Glacial, c'est complètement disjoncté et là, eh ben, c'est un trip incroyable. Le coup des oiseaux qui parlent ou encore du clodo polymorphe est absolument
monstrueux. Du clodo, ouais.
Elle est absolument énorme. C'est du gag, ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement surréaliste. Au bar de l'anneau où Cosmic Roger a ses habitudes, a noyé son chagrin en disant « Putain, la race humaine, elle va disparaître par ma faute parce que je trouve pas de planète !» Et bah, au lieu d'essayer de résoudre la situation, il préfère se bourrer la gueule. Voilà, c'est le anti-héros par absolu. C'est une immense parodie de Valérian. Ça me fait pisser dessus de rire à chaque fois. C'est de Mot et CDM, Cosmic Roger. C'est le tome 5 donc qui était sorti en octobre dernier. Les 12 travaux de Cosmic Roger chez Fluide. Complètement autre chose, toujours dans le Space Opera, mais de manière beaucoup plus intelligente, comme justement on avait parlé avec Orbital. C'est le 10e tome de Sillage qui était sorti pour les 10 ans de la série, dessiné d'une main de maître par Philippe Boucher, vraiment mené au côté scénario par Jean-David Morvan. Il y a plein de séries et accessoires autour de Sillage, ce qui fait qu'on peut en apprendre beaucoup plus sur l'univers. Mais là, ce qu'ils ont fait très fort dans ce 10e tome Retour de Flamme, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur le premier tome de la série. C'est vraiment une invitation à relire le premier tome de la série, à changer d'opinion vis-à-vis de la question sur quel est mon parti pris et finalement qui est vraiment le héros de l'histoire. Et là-dessus, on se prend une claque, on relit complètement la série, C'est très très fort. Donc je rappelle le principe, c'est une jeune humaine qui vit seule sur une planète et qui se retrouve recueillie dans Sillage, qui en fait est un convoi de d'une multitude de races extraterrestres qui cherchent leur terre promise pour pouvoir vivre et s'aimer et prospérer. Et le gros problème, c'est enfin l'un des avantages de Navi, c'est qu'elle est la seule humaine et qu'elle est la seule à ne pas avoir de pouvoir psy. Ou aucun pouvoir psy, et donc ça lui permet d'être un agent spécial. Oui, mais voilà. À quel prix finalement est-elle devenue agent spécial de cette fameuse constituante ? Eh ben, je vous laisserai le découvrir, c'est dans le tome 10 de Sillage. Il y a eu un hors-série qui était vraiment un tirage de tête absolument exceptionnel qui était sorti à côté. Vous manquez pas mal effectivement sans ce bouquin sans ce hors-série pardon excusez-moi le DVD en question, mais quand même Sillage est une très bonne série de science-fiction qui cartonne. Elle est très intelligente, très bien menée graphiquement. Elle est certains disent qu'elle est elle laisse un peu froid justement à cause du nombre incroyable de détails qu'il y a dedans. Moi je trouve que là où Bûcher fait très fort, c'est qu'il arrive à chaque fois à créer une nouvelle garde-robe pour Navis, de nouveaux vaisseaux spatiaux, de nouvelles races extraterrestres. C'est très rare quand il y a des doublons dans cette série. Et même les autres personnages évoluent avec elle. C'est très très fort. Voilà. Sillage, tome 10, retour de flamme. Philippe Bûcher et Jean-David Morvan, c'est une collection Conquistador chez Delcourt. Et les midi 30 sur la poubelle des radios, je devrais normalement passer de la pub. Et je suis pas prêt. Ah, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ça y est, je l'ai trouvé. Je vous passe la pub. Joyeux Noël. Éphémère. Absolument rien à voir, toujours dans la série des 10 bouquins qu'on a retenu pour ce semestre. Thanatos de Didier Convard et Jean-Yves Delitte, l'équipe qu'on connaissait déjà sur les Nouveaux Tsars. Pardon, Jean-Yves Delitte fait tout seul le scénario sur les Nouveaux Tsars. Je me suis trompé. Thanatos donc est une nouvelle série dont le premier tome s'appelle L'année sanglante, et c'est en fait Thanatos. Est un espèce de super méchant, de super vilain. On pense tout de suite, il représente le mal absolu dans une Europe de la belle époque, donc des années 1900, 1910, juste avant la Première Guerre mondiale, puisque Thanatos a trouvé un moyen irrésistible de s'enrichir, celui de créer une guerre. Et ça, je vous laisserai le découvrir dans l'album, j'en ai déjà trop dit. Sinon que c'est un maître du crime absolu. Et tout de suite, quand on pense à son nom, Thanatos, on pense à Fantomas. Et c'est justement l'idée qu'a eu Didier Convard, c'est de réhabiliter un peu, ben justement, tous ces romans feuilletons qui sortaient dans les journaux fin 19e, début 20e, avec justement ces aventures que l'on retrouvait régulièrement, avec des héros qui représentent le bien, qui sont complètement dépassés par la méchanceté absolue du mal et qui ne gagnent pas à tous les coups. En l'occurrence, Louis Victor, détective de la célèbre agence Fiat Lux, et Benin de la police judiciaire. C'est graphiquement absolument très bien foutu. Delitte est un excellent dessinateur, il n'y a rien à redire. Didier Convard est un scénariste qui cartonne, et il y a une raison, il s'est très bien monté justement les polars, et là-dessus, il s'est régalé dans cette ambiance entre la Brigade du Tigre et Adèle Blanc-Sec. Et ben, on a ce côté post-steampunk, un moteur diesel forcément, avec des engins qui ressemblent un peu à des engins militaires de l'ère actuelle, mais avec des gros rivets et des gros moteurs diesel donc, qui fument et qui font du bruit. C'est assez rigolo et c'est bourré d'idées de ce côté-là, mais d'un autre côté, c'est une histoire tragique, parce qu'on ne rigole pas, parce que Thanatos va créer des millions de morts uniquement pour s'enrichir. Et là-dessus, on se dit, bah, qu'est-ce qui fait peur ? Didier Convard, Jean-Yves Delitte, Les aventures de George W. Bush. Ah non, c'est les aventures de Thanatos. Le premier tome donc s'appelle L'année sanglante. C'est dans la collection Graphica chez Glénat. Complètement autre chose, on les avait reçus sur le plateau, c'était Aurélien Horita et Frédéric Boilet. Aurélien Horita a sorti, on l'a chroniqué il y a 15 jours, donc c'était début novembre qui est sorti, Fraises et Chocolat. Le deuxième tome est sorti chez les éditions nouvelles, chez les impressions nouvelles, excusez-moi. Et c'est Aurélien Horita, en fait, fait son autobiographie, déshabillé, déculotté, avec un dessin très mignon, très kawaii, mais en fait...
Et avec beaucoup de légumes.
Ouais. tu peux t'expliquer?
Non, il faut lire le bouquin. Voilà. Vous aurez enfin dans ce tome l'explication de la photo de la dernière page du tome 1.
Voilà, et Aurélien Horita en fait raconte justement ses aventures amoureuses avec Frédéric Boilet, qui est un dessinateur français qui est allé vivre au Japon et qui raconte régulièrement ses aventures amoureuses. Sauf que là, eh ben, c'est lui qui est le personnage secondaire de l'histoire, ce n'est pas lui qui est le personnage principal, et c'est pas lui qui se dessine. C'est une autre personne qui raconte justement son aventure. Et... Et ben là-dessus, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cache-sexe, elle raconte tout de manière crue et tout ça. C'est tellement rigolo, ils sont tellement heureux tous les deux que ben qu'on adore justement. On consulte, on se dit au départ, ah non, je me sens un peu voyeur et tout ça, et puis finalement, on est heureux pour eux à le lire et c'est très très agréable à lire. Ça a vraiment cartonné.
Et puis il y a beaucoup de cul aussi.
Ouais, c'est peut-être pour ça que le bouquin a eu beaucoup de succès dans Télérama, dans Libération et tout ça. Mais non, il n'y a pas que ça. Mais aussi parce qu'elle sait raconter les choses, elle est très drôle, elle raconte beaucoup d'histoires. Et ça vaut vraiment le coup. Fraises et Chocolat, le tome 2, donc, est sorti aux Impressions Nouvelles en novembre dernier. Il vaut mieux avoir lu le premier tome quand même, hein, pour s'y plonger.
Elle parle pas de la même chose aussi dans ce tome 2.
Oui,
elle...
c'est beaucoup plus mélancolique.
Voilà, attention. Elle explique aussi que quand elle se déplace avec Frédéric Boilet, elle est obligée de se faire passer pour une de ses modèles et pour pas que ça commence à jaser dans le milieu, puisqu'il faut pas que les gens sachent avant qu'elle ait sorti son bouquin que c'est sa copine. Donc, ouais, en plus elle est toute triste, elle va un peu noyer son chagrin dans des cafés, elle se fait accoster par une serveuse, et donc ouais, c'est beaucoup plus mélancolique et, enfin, ça te fonctionne toujours aussi bien, en tout cas.
Terminé sortie bande dessinée avec Le Tueur à la Ficelle, enfin les sorties bande dessinée, ce top 10 de sélection avec Didier Convard et Denis Falk, donc encore une fois Didier Convard au scénario, Le Protocole du Tueur, dont le premier et unique tome s'appelle Le Tueur à la Ficelle, c'est dans la collection Investigation chez Glénat, puisqu'en fait c'est une série qui est intitulée Le Protocole, qui est découpée en plusieurs univers. Le Protocole du Tueur, et ben, c'est l'histoire d'un tueur en série qui ligote les pieds des filles et qui les étouffe. Un modus operandi pas vraiment génial et tout ça, mais qui jusqu'ici s'attaquait aux prostituées. Et là, la quatrième personne qui tue, il ne la laisse pas en pleine rue, mais il la laisse chez la victime en question, puisque c'est une jeune étudiante en journalisme. Et en plus, il implique directement le maire de la ville où il l'assassine. Un maire qui est pourtant pressenti pour devenir ministre. À partir de là, le maire qui avait une aventure justement avec la malheureuse victime demande à un de ses amis qui est inspecteur de police et qui est justement chargé de cette enquête de dire, écoute, avant qu'on découvre le corps, ce serait bien si tu subtilises l'ordinateur portable pour pas qu'on tombe sur les emails, parce que sinon je suis mal. Et à partir de là, l'engrenage infernal commence et c'est une claque, c'est un putain de polar. On ne sait pas au départ vers quoi on mène, mais au fur et à mesure, on se dit, oh putain, je la sens mal cette histoire, oh putain, ça va de pire en pire, oh putain, Et à la fin, c'est la claque.
Bon, il va falloir que t'arrêtes de dire oh putain, parce que mes enfants, ils font répéter ça après, quoi, tu vois. Alors ça la fout mal en classe.
D'accord, alors je vais dire, oulala, ça commence.
Purée, punaise.
Excuse-moi. J'avais mal coupé. Le protocole du tueur est un album, un polar, qui a une vocation sociale quand même derrière, comme tous les polars, les romans de la noire. Et justement, de ce côté-là, on ne s'attend pas à aller dans de ce côté-là. C'est vraiment un bouquin étonnant, par le renversement qu'il applique en plein milieu. Vraiment, on a envie d'en savoir un peu plus. C'est de Didier Combard, de Denis Falk. Le protocole du tueur, donc le premier tome s'appelle Le tueur à la ficelle. C'est dans la collection Investigation chez Glénat. C'est vraiment à suivre, à mon sens. Ce sera un beau cadeau. Assez empoisonné parce que du coup, c'est, mince, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Et justement, ce sera à découvrir après. Et le dernier bouquin de cette sélection de 10 tomes est un manga qui n'est pas récent, un manga qui date des années 60, qui s'appelle Lady Snowblood. Le premier tome s'appelle Vengeance Sanglante. C'est de Kazuo Koike et de Kazuo Kamikura. Si vous êtes fan de Kill Bill, si vous avez adoré Kill Bill, eh ben, c'est le manga qui a été adapté en film, qui a vraiment inspiré à Quentin Tarantino, ben, justement, l'idée de Kill Bill, et là-dessus, c'est très fort. C'est l'histoire d'une vengeance, sourde, d'une mère qui a vu son fils et son mari assassinés sous ses yeux par 5 personnes et qui s'est juré de tuer ces 5 personnes. Elle a réussi à en tuer qu'un et malheureusement se trouve emprisonnée à vie. Donc, elle conçoit un enfant et cet enfant sera son instrument de la vengeance. À la fin d'un 19e siècle, au moment où le Japon est en train de s'ouvrir, où le Japon oscille entre le Moyen-Âge et la modernité occidentalisée, à une marche justement vers l'occidentalisation, à marche forcée, et le côté désuet justement, la voix du sabre. Et là-dessus, eh ben, on a un personnage, un tueur tragique, comme c'est très très bien le faire, ben Kazuo Koike, puisqu'il a créé le personnage de Golgo 13, de Lone Wolf and Cub alias Baby Cart, ou encore Crying Freeman, et là-dessus, eh ben, c'est vraiment un très très bon bouquin. On retrouve tous les poncifs qu'il a su créer, mais maîtrisés d'une manière assez exceptionnelle. Il y a aussi le graphisme, on sent l'influence de la ligne Tezuka, vraiment. Il y a aussi le côté estampe japonaise qui ressort. Il y a le côté étonnant des arts martiaux qui est rendu les combats est rendu d'une manière bluffante. Et il y a le personnage principal, donc pas celui de Sayokaji, donc la femme qui veut mener la vengeance, mais celui de Yuki, sa fille, qui suit à la fois un enseignement pour devenir une tueuse implacable et qui mène sa vengeance d'une manière les plus détournées et vicieuses possibles.
Oui, parce qu'en gros, elle lui dit « Ah merde, j'ai une fille. Bon, c'est pas grave, hein, tu vas me venger quand même. » Donc, la mère meurt sitôt après avoir accouché, quasiment. Et puis, elle lui dit « Bon, mais toi, je vais te raconter toute mon histoire à une co-détenue et puis tu lui raconteras tout après. Il va falloir qu'elle souffre et tout, qu'elle apprenne l'art du combat auprès d'un maître d'armes. Tu lui demandes pas son avis. Ça va être juste l'instrument de ma vengeance dans sa vie. Elle aura que ce but. Et elle devra utiliser de tous ses charmes, tous les moyens possibles pour parvenir à buter les 5 enculés qui m'ont violé pendant 2 jours non-stop.
Tout ça pour laver l'affront et restaurer l'honneur de sa famille. Elle va se noircir l'âme au possible. Donc on a vraiment l'idée du tueur implacable, ouais. qui ne reculera devant rien pour tuer.
Ah oui,
avec la fameuse liste.
Oui, la liste, elle va être mais absolument d'une cruauté sans borne et elle va se comporter aussi avec des personnes juste qui vont juste servir à faire des appâts pour d'autres personnes, pour appâter d'autres personnes qu'elle doit buter. C'est un moyen assez vicieux, machiavélique. Mmh. Et en plus, ce qu'il y a de bien dans la BD, c'est qu'il y a ces farcis de toutes petites notes. Alors là, par contre, il faut
vraiment pas les louper.
Il faut
hein.
pas lire la BD à 1h du matin avec un éclairage un peu moisi, parce que là, t'y comprends rien. Parce qu'en plus, ces farcis de notes sur l'histoire du Japon. Tiens, alors là, ces maisons de passe étaient vachement utilisées à cette époque-là. Et puis, il faut savoir aussi qu'après, ça a été pendant l'ère Meiji. Il y a eu une modif après. Bon, voilà. Donc, c'est bien. T'en apprends aussi sur l'histoire du Japon.
Ouais, là-dessus, c'est un très très bon mon bouquin. C'est un livre à conseiller, mais uniquement aux adultes, parce que il va quand même sec. Il y a de la femme à poil. Normalement, c'est comme ça que Thomas repère les bandes dessinées franco-belges, c'est il y a une femme à poil. Eh ben non, loupé. Il y en a aussi là-dedans, c'est assez étonnant. Il y a le graphisme étonnant. Et puis, il y a peut-être les spoilers de Kill Bill 3 dedans. Puisqu'il est censé avoir un Kill Bill 3 10 ans après.
Bah, le Kill Bill 3, c'est censé être la petite fille de Vernita Green à qui Matterman lui dit bon, bah, si tu veux te venger, je serai là, tu sais où me trouver, voilà. Donc le Kill Bill 3 dit voilà, c'est la vengeance de la petite fille qui va se venger de la fille qui voulait se venger de sa mère.
Ce sera à découvrir. En tout cas, en attendant, vous avez vraiment une belle leçon d'histoire et de personnages, d'écriture de personnages qui est assez étonnante, surtout que l'histoire est déconstruite de ce côté-là. C'est pas fréquent justement que on s'amuse à déconstruire une vie pour la raconter dans un manga, et en général c'est une trame très linéaire, et là justement il y a vraiment une grande créativité. Lady Snowblood, le premier tome, s'appelle Vengeance Sanglante, a été chroniqué il y a 15 jours, et c'est donc pour chroniquer cette liste de 10 bouquins qui valent le coup de faire découvrir pour Noël. Et vous pouvez donc les retrouver tous sur le site de l'émission supplément weekend, sans tirer, sans accent, supplémentweekend.tk dans votre navigateur web. Et là-dessus, vous pouvez retrouver le tome 2 d'Orbital, Rupture, de Sylvain Runberg et Serge Pellet, c'est dans la collection Repère chez Dupuis. Your Memories de Chris Lomke, c'est dans la collection Made in Chicana. Le pavillon de l'aile ouest, c'est Chiao Pan. Les garde-fous de Frédéric Bézian. Les 12 travaux de Cosmic Roger, de Moïse DM Chief Fluid. Sillage de Jean-David Morvan et Philippe Bucher, donc le 10e tome pour les 10 ans. La deuxième partie de Fraise et Chocolat d'Aurélia Horita, son autobiographie aux impressions nouvelles. Thanatos de Didier Convard, Jean-Yves de Hitte. J'en ai oublié un, non. Didier Convard et Denis Falk pour Le Protocole du Tueur dans la collection Investigation. Et donc Lady Snowblood de Kazuo Koike et Kazuo Kamikura. C'est sorti dans la collection adulte Sensei chez Kana. Il est midi moins le quart et je commence à être à la bourre. Et Thomas, lui, il s'en fout, il dessine, il gribouille et tout ça. Ok, plug me in, Thomas.
Là, tu nous fous une ambiance lourde là.
C'est voulu.
D'accord.
C'est extrait de la bande originale.
Donc là, c'est maintenant là où on laisse respirer.
Oh, maintenant.
D'accord.
On fera une nouvelle respiration après. Ça.
Ok, donc nous allons parler du film Solid State Society qui est sorti en DVD il y a un petit moment déjà, c'était en septembre. Mais Xavier a eu l'heureuse bonne idée de se précipiter sur le coffret collector au Toulouse Game Show.
Sinon, j'aurais pas la bande son.
Voilà, au Toulouse Game Show, coffret collector qui tabasse sa race avec un packaging assez beau, avec le storyboard intégral, la BO, le DVD à l'intérieur. tout ça pour un prix assez élevé, mais ça, franchement, ça en vaut la peine. Donc, s'il s'agit d'un film de Kenji Kamiyama, produit par les productions IG, et c'est un film qui est sorti en 2006 au Japon, donc qui est tout frais et qui est sorti en septembre en France.
Oui, puisqu'il est sorti en fait. D'ailleurs, c'est pas un film, hein, il est sorti direct en DVD.
Oui.
Voilà, par l'équipe de production de la série. Petite information, je suis un gros fan de Ghost in the Shell, mais étonnamment, je ne l'ai pas vu. Je l'ai acheté, je n'ai pas vu, c'est Thomas qui fait la chronique.
Alors
voilà.
On va vous expliquer pourquoi Xavier ne l'a pas vu. Donc il faut savoir que c'est inspiré d'une série télé qui s'appelle Ghost in the Shell Standalone Complex, qui compte 2 saisons. Et le petit père Xavier, il s'est arrêté au beau milieu de la saison 2. Et nous, avec Sabrina, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on a marre de se taper d'Eric là, à 14h, il nous faudrait une petite série. Donc on se mate ça, et puis on est devenu accro. Et justement, on a...
il y a Hercule Poirot sur TMC à ce moment-là.
Ah ouais, mais on a pas le câble. Et donc voilà, on a dépassé Xavier.
C'est sur la TNT. Hein.
Oui.
Gros naze.
Oh, ça va, hein.
Bon, allez, on reprend.
Et donc voilà, il nous fallait absolument voir le film Solid State Society. Alors, le film est inspiré de cette série Ghost in the Shell Stand-Alone Complex qui a démarré, dont la production a démarré juste après le premier film d'Oshi, Ghost in the Shell, qui était sorti en milieu des années 90.
En 95.
Voilà. Et le deuxième film d'Oshi, Innocence, est sorti un peu après le début de la production de la série. Il faut savoir
sachant que la série a été diffusée en 2003.
La série a été diffusée en 2003 et qui est elle-même inspirée d'un manga de Masamune Shirow. Est-ce que vous suivez? Oui, oui.
Alors
non.
Attention, parce que donc il y a un film et la série qui portent le même nom que le manga, qui ont les mêmes personnages, qui ont à peu près la même intrigue, mais ce sont des univers très parallèles.
Voilà, exactement.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le manga, il y a les films et il y a les séries télé. Plus le téléfilm, et je sais pas s'il est censé faire partie ou non de quel univers.
Il faut restituer la série puisqu'elle est quand même se passe dans un univers un peu parallèle, elle se passe quand même chronologiquement avant les deux films, puisqu'il y a un élément qui se passe à la fin du premier film qui te dit voilà, ça se passe après la série.
D'accord. tu me préviens quand tu en es au spoiler.
oui, je te dirai de te boucher les oreilles. Et donc voilà, donc il faut savoir que c'est réalisé par Kenji Kamiyama, mais Oshi est intervenu quand même en tant que consultant et c'est lui qui a un peu dirigé aussi les thèmes de prédilection de la saison 2 Second Gig.
C'est aussi un peu le patron de Higey Planning. Oui, de Higey Project, pardon. Mm-hmm. La boîte de prod.
Donc qu'est-ce qui se passe dans le film? Eh bien, là, on est en 2034. Alors faut restituer l'univers de Ghost in the Shell puisque ça se passe dans le futur. Après trois guerres non nucléaires et une guerre nucléaire, le Japon est complètement dévasté. Qui a été reconstruit entre temps, et dans le futur, il y a le réseau informatique qui s'est considérablement développé. On peut se connecter sans passer par du filaire, etc. Et il y a beaucoup d'humains qui possèdent des cyber-implants, des cyber-cerveaux, qui ont des corps de cyborg, qui des fois ont juste un ghost, c'est-à-dire le réceptacle de leur personnalité, leurs souvenirs, ce qui fait leur identité propre. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que se situe l'action de tout l'univers Ghost in the Shell. Et dans le film, la section 9 doit élucider une mystérieuse série de suicidés et qui annonce tous la venue du marionnettiste. Et les enquêteurs bossent également, les enquêteurs de la saison 9, de la section 9, enquêtent également. Franchement, ça c'est le topo que tu as dans les 5 premières minutes, je te spoil rien du tout. Les enquêteurs de la section 9 bossent également sur un enlèvement d'enfants de très grande envergure et dans son enquête, Batou tombe sur le Major, qui a quitté la section 9 il y a 2 ans. Serait-elle le fameux marionnettiste? Alors, pour essayer de restituer un peu l'ambiance, donc il faut savoir que la première saison, le méchant principal était le Rieur, c'était un hacker de génie qui faisait chanter le gouvernement. La saison 2, Second Gig, a un traitement plus politique, où c'est un groupe d'individus qui s'appelle les 11 individuels. Et là, par contre, c'est beaucoup plus retort. Mamoru Oshii a dit à l'équipe, vous avez fait vos preuves dans la saison 1, je sais ce que vous valez, vous avez fait du très bon travail, maintenant, je veux du politique. Vous avez vu mon patte labordeux, vous avez vu un peu mes thèmes de prédilection, vous allez
personnellement, au moment de la sortie en France de Ghost in the Shell, et j'en ai discuté avec le responsable de la version française, c'est vrai que le premier film Ghost in the Shell valait pas tripette face au Pat Labordeux du même réalisateur et qui a été réalisé 4 ans auparavant. Là-dessus, il y avait une énorme différence et c'est normal que Oshii se dise mince, c'est vrai que tout le monde me l'a dit.
Voilà. Donc Oshii est intervenu un peu plus, il était un peu plus présent sur la saison 2, il leur a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des guerres nucléaires au Japon, donc il a fallu qu'il y ait de la main d'œuvre pour reconstruire un peu les immeubles qui avaient été pulvérisés. Donc on a fait appel à des réfugiés du continent asiatique. Mais ces réfugiés maintenant, ils posent problème parce que ils sont accusés par les Japonais de leur prendre le boulot, de leur prendre les salaires, etc. Et donc là, c'est le moment que choisit un illuminé qui s'appelle Goda. Qui est une ordure finie, enculé notoire de bâtard de sa mère, qui dit j'ai fait une thèse pendant que j'étais pendant que j'étudiais la civilisation, j'ai vu que pendant l'après-guerre en 45, il y avait eu un climat de prospérité au Japon, le miracle japonais, il y a eu un boom économique et social, et donc là je vais faire pareil, je vais créer une guerre civile en essayant de monter les réfugiés contre l'État. Et voilà, et donc la section 9 est propulsée dans un climat de guerre, et donc la section 9, comme c'est une unité d'élite de la sécurité publique, si à une guerre civile, eh ben elle sert plus vraiment à rien puisque les membres sont ils sont pas nombreux quoi. Donc voilà, l'équipe de production s'est dit, la première saison, bon la saison 9 on l'a vu, c'était des putains de tueurs, c'était des gars super forts dans leur partie, s'il y a une guerre, qu'est-ce qu'ils font, comment ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, etc. Je m'arrêterai là pour spoiler la série puisque Xavier n'a pas vu la saison 2 en entier. Faut juste savoir que dans le dernier épisode, à part les 10 premières minutes, tu sais absolument pas comment ça va finir. La fin est aussi, et comme en off tout à l'heure du sport parlé de la saison, la fin de la saison des Sopranos et de la série d'ailleurs, ben là la fin de la saison 2, ben tu peux interpréter comme tu veux. Et donc le film suit deux ans après la fin de la saison 2, le Motoko complètement désabusé, elle a quitté la section 9 et donc voilà. Ça de façon, Xavier, je le répète, tu l'as dans le derrière de la jaquette du DVD. donc voilà, donc c'est assez compliqué dit comme ça. Il faut savoir que la série avait beaucoup de parti pris au niveau narratif. Il y avait beaucoup de clins d'œil à l'histoire du cinéma. On voyait, il y avait des citations directes d'Alpha Vite de Godard. On a eu du Wim Wenders avec un épisode complètement calqué sur Les Ailes du Désir. On a vu du Full Metal Jacket, également un clin d'œil au clin d'œil des frères Wachowski de Matrix, puisqu'il y a une scène du film ou de la saison 2 d'ailleurs qui parodie une des scènes de Matrix, assez rigolo. Donc là on va retourner au film Ghost in the Shell Standalone Complex Solid State Society. Donc pour les puristes ça fait Jits Sax. et donc voilà. Et donc le film prépare un peu à la différence de Star Wars, de la nouvelle trilogie qui disait bon voilà, tout le monde connaît ce qui se passe après, on va essayer de faire le lien, bon il y a 6PO, il a un look différent, on va essayer de allez tiens, astuce narrative comme ça, vous regardez voilà les personnages qui ressemblent à ça parce qu'il est arrivé ça, etc. Et ben là ils disent genre on va juste faire des clins d'œil dans la série, on va vous préparer au film de Hoshi pour savoir pour vous indiquer comment ils en arrivent là, mais voilà c'est pas direct parce que c'est censé aussi se passer dans un univers parallèle, donc on va juste faire des clins d'œil pour les fans mais sans plus. Donc c'est pour ça qu'au détour d'une scène on voit un personnage manipulé par le marionnettiste qui ressemble étrangement comme deux gouttes d'eau à la nana qui est prise par le Puppet Master dans le film. On se demande à un moment donné si Motoko ne serait pas le marionnettiste à la fin de la saison 2. Elle se dit tiens, c'est vrai que les possibilités du réseau, d'une superstructure dans le réseau du Wired, et ben justement tiens, ça offre pas mal de possibilités, donc ça préfigure ce qui va se passer dans le film d'Oshi. C'est plein de petits clins d'œil comme ça qui encouragent à regarder, à revoir le film de Oshi, celui qui était sorti en 95, et au niveau qualitatif cette série et ce film, c'est vraiment de la tuerie, de la balle, c'est une claque dans la gueule, une mise en scène à montrer dans les écoles de mise en scène, au niveau animation, au point pour une série télé, c'est vraiment du top niveau également. Aussi des parties pris.
J'interviens là parce que je me suis remis en écoute normale.
Ouais, j'ai fini spoiler. Oui.
Voilà, c'est marrant parce que c'est toutes les séries qui parlent justement d'informatique et de la désincarnation qui ont renouvelé vraiment les points de vue et tout ça. Il y a eu Lane. Bien évidemment, il y a eu Dot Hack et donc il y a Ghost in the Shell qui ont vraiment sont dit ben on sort du monde réel, on a une réalité incarnée et tout ça, mais il faut arriver à montrer autre chose. Et c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils sont arrivés à créer de nouveaux vocabulaires graphiques en animation, dans les transitions et tout ça, quand les personnages se parlent entre eux,
par avec interphone, des plans fixes, etc. Ouais.
On est totalement ailleurs et là-dessus c'est très très bien rendu et justement ben les séries, les films Ghost in the Shell aussi étaient allés très loin de ce côté-là. Quoi.
Et puis même il y a des épisodes de la série où à un moment donné on peut se permettre d'avoir dans un épisode un membre de la section 9 qui va enquêter dans le sud-est asiatique. Il revient faire un topo dans une cyberconférence avec ses potes et pendant 20 minutes et ben t'as de la voix off avec un mec avec des images qui dit bon voilà j'ai enquêté sur machin, il a eu tel passé, il était dans l'armée avant, et t'as que ça dans l'épisode. T'as aussi un autre épisode où les Tachikoma, ce sont ces tanks d'élite avec dotés d'une intelligence artificielle propre qui récapitule tout ce qui s'est passé dans la série avant, en disant tiens, et si c'était machin, mais lui c'est un imitateur, et qu'est-ce qui te fait penser ça? Donc une devise avec des une philosophie vraiment, et c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi un autre
donc épisode. il y a un épisode où ils font plus qu'un résumé, ils font de l'anticipation, des ouvertures aussi.
Ouais, tout à fait. On assiste à une discussion sur un forum au moment donné avec des intervenants qui assistent et qui participent au forum, d'autres qui participent aussi très activement. Une lecture très imagée des forums d'internet qu'on peut trouver sur internet. Et voilà, c'est vraiment la claque dans la gueule qui rend accro. Au point de vue philosophie, la série se permet beaucoup de digressions également, puisque la série s'appelle Standalone Complex. C'est un complexe nourri par des personnes dans le futur qui se disent si mes souvenirs peuvent être piratés, si mes souvenirs peuvent être artificiels, si mon corps est artificiel, qu'est-ce que j'ai d'humain? Est-ce que mon ghost aussi a été déplacé d'un corps dans un autre corps artificiel?
C'est toute la question, c'est le vol de données.
Oui.
C'est un vol de données où on laisse l'original à sa place, mais on le duplique.
Voilà, on le duplique. Si je ne suis qu'un amas de données, qu'est-ce que je suis? Comment est-ce que je peux garder mon individualité? Je me sens seul aussi dans ce monde déshumanisé, donc je vais essayer de trouver ma place.
C'est une thématique que Shiro avait déjà employée, mais pas dans la série principale Ghost in the Shell, si je me souviens bien.
Donc, si je garde mon individualité, il faut quand même que je serve quelque chose dans cette société, donc je vais quand même m'identifier à des actes de certains individus charismatiques, des individus qui sont des leaders pour la société. Peut-être ça peut être un hacker de génie, ça peut être un terroriste. Voilà, donc c'est tout à fait ce genre de positionnement, ce questionnement que peuvent avoir des personnes. Voilà, le standalone complexe est aussi expliqué comme ça. Il y a une multitude d'interprétations suivant le spectateur de la série. Tout est ouvert. Et voilà, c'est encore une fois une claque. Donc on récapitule toutes les œuvres qui sont inspirées de manga de Shiro. Donc il y a les films de Mamoru Oshii, il y a la série Standalone Complex qui comporte 2 saisons plus 2 téléfilms qui sont un remontage de chaque saison, le Rieur et les 11 individuels, qui sont des montages assez longs de 2h30 à peu près, mais je vous recommande quand même
l'essentiel, puisque en fait c'est donc la trame principale de la série qui est diluée, qui là est condensé. Voilà.
Qui est condensé, bon, effectivement, vous pouvez imaginer les sautes de rimes qu'il peut y avoir, puisque c'est quand même des épisodes qui sont conçus pour s'étaler dans 24 fois 22 minutes à peu près, donc si c'est condensé sur un film de 2h30, voilà, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Et il y a également ce film Solid State Society, un peu décevant sur certains points, parce que bon, si Kenji Kamiyama et son équipe ont fait du sacré bon boulot sur une série télé, faut quand même reconnaître que quand il s'attaque au long métrage, même si c'est de long métrage directement sorti en DVD, il y a Mamoru Oshii qui est passé avant, et c'est longue scène contemplative. Et voilà, bon, la comparaison n'est pas en faveur de Kenji Kamiyama, mais ça reste quand même du très bon, avec multiples explications possibles, une fin extrêmement ouverte. Voilà, ça reste quand même du très bon.
Et pour les fans de cinématographie, vraiment l'épisode à regarder de la série télé, celui qui est dans la première saison, c'est le deuxième ou le troisième.
Oui, j'en ai parlé quand tu t'étais bouché les oreilles.
Voilà, c'est absolument étonnant. Voilà.
Donc Ghost in the Shell, Standalone Complex, Solid State Society, j'y suis arrivé.
Je rappelle qu'il y a eu un épisode, enfin qu'il y a eu un tome 2 et demi qui est sorti incognito.
Ouais.
Incognito en librairie, oui, 1 et demi qui se situe entre les deux. C'est bien dommage et ça permet de rajouter des éléments supplémentaires que nous on n'a pas en Europe, malheureusement.
Voilà, bref, un univers assez riche
et extrêmement dense.
Voilà, faut savoir que bon, on va quand même faire un topo très très simplifié. La manga de Masamune Shiro, extrêmement compliqué. Si vous amusez à lire toutes les notes qu'a délivré l'auteur, vous n'avez pas fini.
Surtout que ils ont été très mal traduites par Glénat.
Voilà.
Ils sont fait fesser en public là-dessus.
Les films de Oshii, il faut apprécier le contemplatif et l'animation qui est pas du Disney. Hein. Bon, faut quand même le savoir. Si vous voulez vous mettre à de la Japanimation, faut pas commencer par Ghost in the Shell. Et en plus, ce n'est qu'au bout de la 5e vision pour les deux films qu'on commence à comprendre quelque chose. Et la série télé, il y a beaucoup plus abordable. Hein. Donc, c'est quand même, ça s'adresse à des passionnés de technologie, de séries qui font réfléchir. Faut quand même savoir ça avant de s'y mettre.
Oui, petite curiosité d'ailleurs, dans la BD d'origine, il y a les travaux de deux professeurs autour de la neurologie à Toulouse qui sont cités dans la BD originale. Et Glénat a tellement mal fait le travail qu'ils ont qu'ils sont passés par traduction américaine où ils ont mal orthographié les noms et tout, donc tu le retrouves pas du tout.
Alors oui, alors en pendant à ces petites notes que délivre le l'auteur Masamune Shirō dans la manga, il faut savoir aussi qu'il y a eu un très bon travail sur l'éditeur Biz Entertainment, l'éditeur du DVD, qui a aussi des notes pour aider à la compréhension de certains faits de société japonais qui sont distillés un peu au fur et à mesure des épisodes et que on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas un peu l'histoire du Japon, qui était aussi le cas aussi sur les précédents films de Hoshi comme Patlabor 2, etc. Mais il faut savoir aussi que tout n'est pas dans ses notes. Il faut aussi se renseigner un peu de son côté. On se dit, merde, ils en ont pas parlé dans le DVD, mais il y a aussi ça et ça et ça.
Voilà. On va y venir à la télévision. On fait un petit break peut-être du... Du spé, oui, et il débouchonne la bouteille de Badois Rouge. Pourquoi est-il si méchant? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont tout à l'heure en concert à 20h, en même temps qu'il y a la soirée au 6M1P au Théâtre Garonne. C'est Stéréo Total, et c'est Ali Duramier, et j'en suis super fan. C'est extrait de l'album 12, Bambi, La douce humanité. Seul dans la nuit, armé de sa télécommande et des derniers potins sur papier glacé, Télé 7 jours dimanche.
Télé Z.
C c'est pour les blagues. Avec son éternel donut au hot dog du sport.
Avec pas de télé pour commencer, mais...
L'annonce... Tu me cries mon intro.
L'annonce de nouveau numéro de Mad Movie de décembre. Avec en couverture, d'habitude, on le retrouve plus souvent à l'affiche de journaux tels que Première, Score,
Ah, ça existe plus Score.
Elle. Ouais. Cosmopolitan, Femina Magazine, Johnny, le beau Johnny, Johnny Depp, c'est lui, c'est Johnny Depp, donc en couverture de Mad Movie, vous ne rêvez
qui
pas.
Qui sera le méchant?
Si, 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 et qui sera bientôt à l'affiche prochaine du nouveau film de Tim Burton, avec bah, ça a l'air vraiment alléchant parce que bon, c'est l'adaptation d'une comédie musicale de la fin des années 70, hein, et mais bon, genre slasher, tu vois quoi, écrit par Stephen Sondheim qui a bossé avec Leonard Bernstein, c'est-à-dire le mec qui a fait plein de musique dans les années 50-60, dont le fameux White Side Story. Entre autres, on y revient toujours, hein, tu vois quoi. Et avec un casting qui a l'air tuant, quoi. Helena Bonham Carter, Alan Rickman et Sacha Baron Cohen.
Alors, ça risque de étonnant. Rigoler. On l'a pas mais, reconnu.
Il s'agit quand même d'une comédie musicale, donc bon, ça peut être rigolo. Outre ce qu'il y a sur la couverture, on nous parle bien entendu d'autres films tels que Eden Log, la bonne découverte française de cette fin d'année, Alien vs Predator Requiem, Rogue, le crocodile de la mort, ainsi que...
On se demande duquel il faut rire.
Ainsi que les rubriques habituelles, à savoir...
Il y avait une interview d'un collaborateur de Cronenberg.
J'allais y arriver, mais après, tu vois, un peu plus tard, quoi, parce que c'est sur la fin. J'en étais où donc? Non, la mat séquence, c'est sur le film Old Boy, donc bien quoi. Il y a également le mat cut sur Alien 3 et les gros films, c'est les grosses parties. C'est déjà la première partie de la carrière de Dan O'Bannon. Ah oui, Dan O'Bannon, bien sûr. C'est également le Mad Cut, donc avec un super gros article sur la sortie de Alien, justement, avec une édition spéciale qui vient de sortir en DVD. Tout le bordel. Il y a également, là, le truc très intéressant, c'est l'interview du chef-op de Peter Suchitsky, qui est le chef-op de attitré de David Cronenberg depuis le début. Alors tu vois, quoi, c'est cool quoi. Donc il va nous raconter un petit peu comment ils bossent ensemble, et puis c'est pas mal, c'est assez cool. Et il y a la fameuse pin-up. Et la pin-up, ce coup-ci, bon, généralement ces pin-up, c'est des nanas de seconde zone, qui ont pas fait, qui aimeraient bien faire carrière.
Oui, dans en du boucherie, normal. En boucherie, on appelle ça du second choix, quoi.
Non, pas forcément dans du normal, mais bon, qui par les chemins qu'elles ont pris au départ, bah se retrouvent dans des
enfermées dans des cases.
Ouais, enfermées dans des cases, des productions un petit peu dévêtues.
Sont.
Alors que là, elle a commencé très fort par un film qui a été super oscarisé, tu vois, à fond les manettes. C'est Tora Birch, tu te rappelles?
Oui, American Beauty.
Yes, American Beauty. Ouais, toute nue à l'âge de 16 ans, ça avait fait hurler beaucoup de monde à l'époque.
C'était elle qui était dans les pétales de rose.
Voilà. Tout ça donc dans le nouveau Mad Movies avec
avec donc la double page qui vient de se faire dégrafer. Dommage du sport.
Non. Parlons télé à présent avec putain, il est déjà presque écart. Hein.
Désolé.
Avec une nouvelle chaîne dont j'aurais dû vous parler la semaine dernière, vu que elle a commencé à émettre sur CanalSat ainsi que sur Numéricable ainsi que la DSL. C'est elle a commencé à émettre cette semaine, donc c'est la chaîne Art de vivre pour les 45-65 ans, Vivolta,
alias Vista. À l'origine, il devait s'appeler Vista, la chaîne. Ah ouais.
dont le président est autre que Philippe Gildas, hein, donc un monsieur de télé
formidable.
Comme formidable. On en fait plus, comme on en fait plus, et qui a réuni autour de lui On va pas dire des has-been, mais enfin bon, des gens
qui
sont des représentatifs de la chaîne qu'ils sont en train de lancer, à savoir des gens qui ont pris soit une retraite volontaire par rapport à la télé, c'est le cas de Marie-Ange Nardi, hein, tu te rappelles, elle s'était fait bouffer et tout.
Par
quoi,
le tigre.
Ouais. Ouais, donc ça avait vachement, elle avait arrêté après, quoi, disons, bon, ça allait vachement choquer cet incident, bon, c'est normal, hein, se faire bouffer par un tigre, c'est pas
très... Il y en a d'autres fait décaloter le bras,
ouais. Ouais, ouais, il y en a d'autres qui se sont fait débarquer, on va dire, parce que leurs propos et leur sujet de télé étaient un petit peu too much, on va dire, c'est le cas de Jacques Pradel. Et il y en a d'autres qu'on a plus vu et qu'on a plus découvert, quoi, du moins pour le commun des mortels, dans la case des Guignols, plutôt que dans leur...
Pierre Fula.
Non, je vais parler de Jean-Pierre Gaillard.
Ah oui.
Qu'on a plus découvert, on va dire, chez les Guignols, pour la plupart des gens, que sur LCI, où il officiait dans le temps. Il y a également Bonaldi qui est au programme, bien sûr, hein. Un Gildas sans Bonaldi, c'est pas vraiment un
Gildas. Il y a Philippe Vandel aussi.
Il y a Vandel et il y a bien entendu d'autres chroniqueurs. Alors juste pour vous donner un petit avant-goût de ce que ça peut être, je vous ai fait le programme de la journée d'aujourd'hui, hein, parce que bon bah il n'y a pas trop de changements, on va dire, un week-end de semaine, hein. C'est grosso modo plus ou moins toujours la même trame avec cet après-midi à 14h20 un téléfilm. Alors au niveau film, téléfilm, j'ai regardé un petit peu comme ça de façon assez poussée toute la semaine prochaine. C'est que du téléfilm français. Bon, ok. Et ça commence donc à 14h20 avec un téléfilm Le Président Ferrare avec Jean-Claude Brialy. Se regretter. Bon, bah, c'est... ouais, d'accord. Et c'est suivi à 15h55 par la première partie. C'est un téléfilm en quatre parties, Le Comte de Monte Cristo, la version avec Gérard Depardieu. Donc dispensable à la limite. Ensuite, il y a également sur cette chaîne, bien sûr, des émissions qui étaient produites par d'autres chaînes et qu'on peut rediffuser avec plus ou moins de temps de latence au niveau du délai. C'est le cas de Côté Jardin qui est diffusé cet après-midi à 17h35, suivi par une émission de bien-être qui s'appelle Bien-être tout simplement à 18h. À 18h45, c'est l'émission, on va dire, Access Prime Time, mais comme il n'y a pas encore de magazine d'info, il n'y a pas de journal télé sur cette chaîne, donc on peut dire que c'est vraiment l'émission Access Prime Time, Access Soirée, c'est Gildas & Co, soit bien entendu le talk show qu'on connaît,
voilà, le soiring de base.
Ils se font vieux, alors dans le temps, vous rappelez, on était sur Canal, cool et tout, c'est on déconnait, maintenant, bon bah voilà, on est sur Volta et puis on fait la même chose, enfin on essaye du moins. Ensuite à 20h05 les dossiers Pradel avec des enquêtes du vrai journalisme, parce que Jacques Pradel est journaliste, figure-toi. Si c'est
une très bonne émission sur la radio d'ailleurs.
Et c'est vrai mais justement et
enfin, maintenant il a du mal à faire les matinales sur Europe 1.
Je suis pas encore tombé sur un de ces dossiers, mais ça peut être intéressant. À 20h45 un autre téléfilm, Le Jardin des Plantes de Philippe de Broca avec Claude Rich, 95, suivi d'un autre téléfilm à 22h40 toujours sur Vivolta, ce soir Charmant Voisin avec Daniel Prévost. Et ne loupez pas, à 1h35 du matin, l'émission qui sera peut-être culte dans 2 mois, Argent et Patrimoine, de Jean-Pierre Gaillard.
Alors, on parle... Le marché vous emmerde.
Part du marché, fin du bénéfice. Attends, non, mon petit gars, la bulle 2.0 va éclater.
C'est que, il y a pas mal de temps, il y a pas mal d'années, en fait, LCI était une des seules chaînes d'info continue. Sur le câble, sur le satellite.
Fondé en 92.
Donc on voyait Jean-Pierre Gaillard assez souvent quand on se mettait sur cette chaîne-là. Et c'était assez rigolo de voir quelle était la couleur de ses pochettes. Tu vois, parce que bon, le mec en costard, et puis il y a toujours une pochette dans la poche extérieure de la veste. Et selon la couleur de la pochette, on pouvait un peu dire, bon, aujourd'hui ça a été cool et tout. Ouais, on s'est fait niquer grave et tout. Selon la couleur de la pochette, c'était assez régulier quand même. Le faisait-il exprès? Il faudrait lui poser
À mon avis, il a dû piquer l'idée à Alain Gilot-Pétré.
Peut-être. Oh non, Gilot-Pétré était...
Si, il y avait une pochette de couleur.
Vachement plus high, quoi. Gilot-Pétré, de toute façon. Ouais. Non, Gaillard, c'est quand même un pragmatique. Alors, je viens de parler d'une chaîne qui vient de naître, donc, cette semaine, une chaîne va arrêter d'émettre, et ça c'est vraiment dommage, parce que bon, bah, je vous en ai parlé assez abondamment, parce que il y a deux ou trois séries ou téléfilms qui sont passés sur cette chaîne qui étaient vraiment très très bien. J'en veux pour preuve cet excellent soap hollandais Jardin Secret.
Il l'a placé.
Mais pas que ça, hein, je veux dire, il y a eu d'autres choses très intéressantes. C'est Fox Life, dont le grand patron Canal+, qui a bouffé TPS, à qui appartenait Fox Life, enfin qui avait obtenu les droits de licence pour Fox, de la part de Fox, pour diffuser une chaîne Fox en France, et comme TPS se fait bouffer par Canal+, et que Canal+ dit bon, bah, ok, des chaînes, des niches comme ça, thématiques, Fox Life est ciblé femme 30-40 ans, on va dire 25-40 ans, allez, pour être large, plutôt 30-40 ans, la niche est trop petite, il y a pas assez de monde, il y a pas assez d'audience, donc on ferme.
Je crois qu'il y a plus
les goals.
Je crois qu'il y a pas que ça, il y a aussi le problème qu'elle émet à partir de l'Italie, et il y a eu 2-3 remises en cause de la part du CSA, hein. Il y a eu une des publicités cachées, trucs comme ça.
Hein. Ouais, ouais, mais enfin bon, c'est vraiment pas grave, hein. Ce qui fait que bon ben Fox Life est retiré de CanalSat depuis le 3 décembre. Les mecs qui ont CanalSat a pu Fox Life, mais sur Numérique Lab, on peut encore le regarder jusqu'à la fin de l'année. Juste
allez, le 31
décembre.
Dernière goutte.
Ainsi que sur la DSL, bien sûr. Voilà pour les chaînes. Maintenant des séries avec. C'est marrant, deux fins de saison pratiquement simultanées, du moins la même semaine, et deux fins de saison de séries qui marchent très très fort, enfin que moi j'aime beaucoup. Il s'agit tout d'abord de Shark, dont les deux derniers épisodes de la première saison seront diffusés dimanche, demain, à 20h50 sur Paris Première, avec Abus de Pouvoir, et la deuxième partie de Mon Meilleur Ennemi. Alors là, ça risque d'être vraiment très très bien. Vraiment très très bien, ne loupez pas ça. Shark, c'est la bonne surprise en ce qui concerne la série un petit peu à tendance policière, on va dire, hein. Ça se passe pas vraiment dans le milieu, si c'est pas dans le milieu de la police, mais les acteurs principaux appartiennent au cabinet du juge, du procureur, donc, hein, sont chargés d'enquêter à charge pour essayer de confondre les meurtriers, les assassins, avec James Woods, qui est vraiment très très bon, mais vraiment très 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 bon. Alors c'est dommage, on se dit que quand on le voit au cinéma, ben on le voit que pendant une heure et demie. Là, pendant une saison, ben tu peux le voir pendant pratiquement 20 heures, tu vois. C'est vraiment que du bonheur, hein, vraiment à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que lui dans cette série, il y a également les autres acteurs et actrices qui sont assez bons, il faut le dire aussi. Et si Shark se termine demain soir sur Paris Première, et ben Dirt également se termine la semaine prochaine. Et alors, Canal Jimmy a fait un choix un petit peu osé, je trouve, hein, c'est de diffuser les 5 derniers épisodes la semaine prochaine, à savoir de 2 épisodes le lundi comme d'habitude, hein, le lundi soir à partir de 20h45. Donc lundi prochain, les 2 derniers épisodes de Dirt. Dirt, je rappelle, c'est une émission qui se passe dans les coulisses d'un magazine de scandale où on suit de potin, hein, genre c'est du voici, mais du voici à fond les manettes, quoi, c'est-à-dire bien trash à l'américaine, quoi, avec Courtney Cox dans le rôle principal, celle de la rédactrice en chef de ce magazine. Et Dirt, donc, on est à son 9e épisode lundi. Il y en a que 13 dans la saison. C'est déjà bien trash. C'est une série vachement trash qui, au départ, part un petit peu dans la... on se dit, bon, ça va aller dans la gaudriole, la révélation, les potins, celui-là qui fait ça, ah ouais, le super acteur d'Hollywood qui joue dans tous les films d'action, c'est un gros PD, enfin bon, il dit qu'il a une femme, des enfants. Sur les plateaux télé, il déclare que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis bon, derrière, il y a que des gigolos qui arrêtent pas de sucer, de se faire enculer. Enfin bon, je parle un petit peu crûment, mais enfin, la série est comme ça, elle est moins 12. Il y a également d'autres pans qui sont développés, dont la personnalité justement de Lucy Spiller, quoi, interprétée par Courtney Cox, qui est vraiment très 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 fine, hein, c'est vraiment très 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 bien observé. Et là, sur l'épisode 8, le dernier épisode diffusé par Canal Jimmy lundi dernier, bon, elle est vraiment en train de péter les plombs, et vraiment Courtney Cox en tant qu'actrice, là, elle se révèle vraiment très très bonne. Elle a trouvé vraiment son truc, hein, y a pas de problème. Dans l'épisode les deux épisodes de lundi prochain, 9-13 et 10-13, le premier prise d'otage, avec quand même comme guest star Vincent Gallo, ça peut le faire, on va dire. Ensuite, le 10-13, c'est un épisode qui s'appelle Numéro Spécial Sexe. Et Canal Jimmy vous diffuse les 3 derniers épisodes le lendemain soir, à savoir mardi prochain à partir de 20h45, donc 3 épisodes de Dirt. Le 11 qui s'appelle Le Mentor, le 12 sur 13 qui s'appelle Dans la Tourmente, et le dernier épisode de la première saison de Dirt qui s'appelle La Messe Édite, avec comme guest star une copine à Courtney. Devinez laquelle?
Lisa Kudrow?
Non.
Neve Campbell?
Non.
L'autre là de...
L'ex de Brad.
Ah,
Jennifer Aniston. Donc dans l'épisode final de la première saison de Dirt. Alors, du côté des nouvelles saisons, New York District, Law and Order, New York Police Judiciaire, c'est comme vous voulez, mais quand c'est sur 13ème rue, ça s'appelle New York District, saison 17. 17 saisons. Tu te rends compte, quoi? Et ils sont déjà en train de tourner la 18ème. avec Denis Farina s'est cassé, hein, il avait remplacé de Jerry Orbach qui décédait, mais bon ça lui a pas trop plu, enfin bon bof quoi, voilà quoi,
il a resté une combien de temps,
une saison. Et dans la saison 18, eh bien, on aura la présence, Jesse L. Martin est toujours sur le coup, Sam Waterston est toujours sur le coup, ce qui fait de lui l'acteur le plus ancien dans la série, maintenant, hein, puisque c'est Patrick Merkeson, lui, elle est arrivée un tout petit peu après Sam Waterston. Du côté des nouveaux, pour la saison 18, donc pas celle qui va être diffusée sur 13ème rue, mais la saison 18 qu'on verra dans 5-6 mois, Alana Lagarza, ah oui, c'est une pétillante petite brune qu'on avait vue dans CSI Miami. Jérémy Sisto, qu'on a vu dans Kidnapped, donc sur M6, il n'y a pas si longtemps que ça. Et Milena Govic. Dans les deux premiers épisodes de la saison 17 diffusée vendredi prochain sur 13ème rue, le premier c'est Couple de Stars, le deuxième c'est L'Annonce. Couple de Stars, à propos d'un couple de stars qui adopte un enfant en Afrique.
Et d'ailleurs, en parlant de stars et de séries policières, excellent l'épisode avec John McEnroe de CSI Manhattan.
Ouais, mais alors,
il ressemblait à rien quand même. C'était n'importe quoi cet épisode.
Moi j'ai été très déçu parce que contrairement à tous les autres épisodes qui étaient diffusés en version multilingue les mercredis précédents, celui-là n'avait pas droit à la version multilingue, donc on a dû se taper John McEnroe avec en version française.
Il a censuré sa propre voix,
hein. Merci les gars, hein, vraiment dommage quoi. Alors là TF1 pas bravo du tout là, vraiment pas bravo, hein, tu vois quoi. Du côté des nouvelles saisons, en deuxième saison de Ghost Whisperer avec toujours Jennifer Love Hewitt et Cameron Mannheim qui fait son apparition dans la deuxième saison. Cameron Mannheim, c'est la femme avec l'embonpoint qu'on peut voir dans le cabinet d'avocat de McDonnell and Associates.
Ah oui, The Practice, la grosse.
Voilà. Avec un peu d'embonpoint, dit quand on est poli.
Pardon.
Surtout qu'elle a maigri depuis. Secret d'héritage. Je vous parlais de Jardin Secret avant.
Non.
Eh bien, Secret d'héritage est diffusé par Canal Jimmy. Non. La saison 3. Et par contre, pas chapeau à Canal Jimmy qui le diffuse mercredi matin à partir de 9h15. À raison de deux épisodes par matin. Sympathique, les gars. Par contre, dans The Closer, je vous parlais de c'est Patin Merkesson, hein, qui joue le rôle du capitaine Van Buren. Dans la série New York District, elle est également guest star dans The Closer demain soir sur France 3, à partir de 20h50, où elle joue le rôle de médecin légiste. Donc, dans plusieurs épisodes d'ailleurs de cette saison 3 de The Closer, dont un seul épisode est diffusé donc demain soir à 20h50. C'est Choc culturel le numéro 10 de la saison 3. Alors les Sopranos, vous avez loupé ça, c'était avant-hier, hein, les trois derniers épisodes hein, de cette magnifique saison.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Elle est contente parce que t'as raté l'alerte cul tout à l'heure.
On peut dire qu'ils ont fait vraiment très très fort, hein, parce que des 9 épisodes, hein, qui constituaient le final de cette dernière 6ème saison, qui a donc été saucissonnée en deux parties. La première partie, 12 épisodes tournés loin avant, il y a 2 ans déjà, et la deuxième partie, donc les 9 épisodes restants tournés, il y a un petit peu moins de temps que ça. Le dernier épisode final, donc, qui s'appelle Made in USA, a été vu par encore 8 millions de fidèles, ce qui fait quand même un score assez intéressant. Bon, c'est pas les super records, hein, des super chaînes.
Mais c'est une chaîne du câble payante quand même.
C'est une chaîne du câble payante, HBO, donc il faut dire que c'est vraiment pas mal du tout. Et du coup, avec cette fin qui n'en est pas vraiment une, parce que bon, faut bien dire que bon, sur le coup de la fin, quoi, dans le dernier épisode, ça peut laisser augurer de n'importe quoi. Alors David Chase a déjà dit que c'était fini, il n'y avait plus de série de Sopranos, l'épisode Made in USA était l'épisode final, il n'y aura donc pas de retour des Sopranos ou des trucs comme ça. Mais par contre, peut-être que la porte est un petit peu entrouverte pour une version cinéma. Mais il faudra peut-être aussi que David Chase et ses partenaires viennent se démerdent, parce que bon, les personnages commencent à vieillir, hein, c'est le cas de James Gandolfini, hein, qui n'a plus exactement la même tronche qu'il avait quand il a commencé sa carrière dans les Sopranos il y a un petit peu plus de 8 ans, et donc il faudrait un petit peu speeder. Alors c'est là que ça risque de bloquer un tout petit peu à mon avis, et il faut dire également qu'il y a également d'autres problèmes liés justement aux problèmes personnels, on va dire, de certains autres acteurs et actrices qui sont liés à cette série. Il faut savoir que si entre les deux parties il y a eu vachement de temps, c'est pas simplement parce qu'il y a eu beaucoup de discussions financières sur le salaire de Gandolfini qui voulait pas retourner, mais également parce que Robert Hiller, qui joue le fils de Tony Soprano, Anthony Junior, lui avait des problèmes de drogue sérieux, hein, il était au trou et tout quoi. Donc ils ont dû attendre, ils ont dû patienter pour pouvoir réunir tout le monde pour tourner ces 9 derniers épisodes. Et on peut dire que de toute façon, au niveau technique et au niveau, on va dire, série Soprano, par ce coup final, montre que c'est une très très grande série, que ça va rester un modèle pendant pas mal de temps en ce qui concerne ce genre de série magnifique, hein, vraiment excellent. Séance de rattrapage, c'est lundi soir sur Canal Jimmy, très tard, hein, donc à la limite, prévoyez l'enregistrement ou alors beaucoup de café, hein, parce que les 3 derniers épisodes sont rediffusés donc lundi soir, mais à partir de 23h15, après les 2 épisodes de Dirt. Lundi soir, il y a beaucoup de choses. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses lundi soir. Parce que lundi soir, on sait que tous les jours de la semaine, à partir de 20h20 sur France 3, qu'est-ce qu'il y a?
Lundi soir, tout, 20h20. Ah oui, Plus belle la vie, non?
Plus belle la vie, bien entendu. Ah bon. Et il faut dire que ça roule.
Ah, j'ai vu la bande-annonce. Ils vont faire
un meurtre.
Non, ils vont faire un prime time.
Absolument pas. Non. Prime time pour Plus belle la vie, donc, qui d'habitude est diffusé tous les jours de la semaine à partir de 20h20 jusqu'à 20h40, hein, donc excellente, très bonne série de France 3. Si non, franchement, hein,
moi je dis ça à cause de l'audience, mais ils ont supprimé toute l'idée de base qui était de ne pas de trucs artificiels.
Ah non, mais tu peux moi je regarde assez souvent, pas je suis pas un fondu à suivre vraiment tout ce qui se passe. Mais bon, moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Je sais, je suis le seul, mais tant pis. Et Plus belle la vie, on vous propose.
Vous saurez qui regardera Vista, la chaîne de vieux. Voilà.
Plus belle la vie propose Prime Time, donc mardi prochain à partir de 20h50. Donc mardi prochain sur France 3, 20h20, l'épisode classique. Mais à partir de 20h50 jusqu'à 22h30, ce sont des épisodes de Plus belle la vie, mais des épisodes hors série. Très fort les gars, très très fort les gars. Donc des épisodes qui sont décalés, qui n'ont rien à voir par rapport à l'histoire qui est en cours dans Plus belle la vie. Il faut dire que ça mouline, hein. Ça mouline grave quand même.
Ils ont attendu qu'il y ait la fin de la Ligue des Champions pour programmer le mardi soir Plus belle la vie.
Ouais, de toute façon, hein, François, la Ligue des Champions, ils s'en tapent un peu.
Eh oui.
On va terminer. Ouais, pas mal. On va terminer avec la semaine sur CinéFX. Alors je vous signale tout de suite. Vous pouvez le noter dans vos agendas. La semaine prochaine, c'est bien entendu, comme chaque année,
ah non,
la sélection
des films avec des animaux.
Oui, les films de Noël avec des animaux.
Alors c'est un spécial chien cette année, un chat. Oh,
hein. On verra. Hein. Ça dépend de ce qu'on nous programme aussi. Hein. Alors cette semaine, on va faire bien parce que c'est sur CinéFX qu'on va se tourner. Avec les premières et deuxièmes parties de soirée quand même, hein, parce que des fois les deuxièmes parties sont plus intéressantes. Ce soir, ça commence par Skeleton Man de Johnny Marty. Attends, avec Michael Rooker et Casper Van Dien.
Ah
ça
oui,
peut être très bien, hein, cette histoire de deux mecs qui arrivent dans une ville, et puis pour chasser des fantômes, en fait ils se font poursuivre par un squelette.
C'est Scooby-Doo.
Ouais, peut-être. T'as vu le nouveau Scooby-Doo là?
Non. Ah, la nouvelle série?
Ouais.
Ah, chier.
Ouais, c'est moderne maintenant.
Oui, c'est moderne, comme tu dis.
Alors, à 22h35, ce soir, sur la chaîne FX, CinéFX, Runaway, l'évadé du futur, avec Tom Selleck, film de Michael Crichton, de 84, là. Hein,
celui où il joue un flic et il est poursuivi par un tueur avec des armes.
Il fout le truc dans la tête et tout, quoi. Donc, Tom Selleck et Cynthia Rhodes. Demain soir, un petit film de Mick Garris, La Nuit Déchirée, avec Brian Crowther. Alors là, c'est vachement marrant parce qu'au niveau du casting, t'as que des gens qu'on a retrouvés par la suite dans des séries. Brian Crowther, donc Six Feet Under, Matt Chenami qu'on a vu dans Twin Peaks, et Alice Krige. Ça, c'est à demain à 21h, à 22h35. Un petit Robert Fuest de 75, La Pluie du Diable avec Ernest Borgnine. Lundi, gros classique, Fahrenheit 451 à 21h,
oui,
suivi
de Truffaut.
Ouais, bah oui.
Ah oui, oui.
Il y a eu qu'un de façon
chute. Malheureusement, Cinéfix n'est pas connu pour diffuser des versions de bonne qualité. Ça, la pellicule risque d'être un petit peu poussiéreuse et la vidéo un petit peu passée.
Hein. Ah bah, tu passes la poche à moi sur ton écran.
Non, non, je le reçois très mal.
Bon, d'accord. À 22h50, lundi, la falaise mystérieuse, hein, Lewis Allen de 43 avec Ray Milland. À mardi, à 21h, oh merde, j'ai oublié.
Bon, les Daleks.
Les Daleks envahissent la Terre. La suite de l'autre. Bah ouais, ouais, ouais. Tournée l'année suivante, en 66, avec toujours Peter Cushing dans le rôle du Docteur Who. Suivi à 22h20 de Garou Garou, le passe-muraille. Tu connais ce film? Non, tu connais pas non. Du tout. Hein, c'est le film de Jean Boyer de 50 avec Bourville. Mais qui est assez rigolo, hein, qui est un peu fantastique comme ça. C'est poétique. Enfin, c'est
justement repris de Raymond Aimé. Enfin, c'est Marcel Aimé.
Voilà. Ouais, ouais, ouais.
C'est vraiment l'esprit est repris, ouais, mais avec le côté bon enfant justement de là-dessus, assez étonnant.
Alors, mercredi, c'est la soirée des films 3 avec à 21h The Crow 3. Avec Eric Mabius et Kirsten Dunst. Ah oui. Marie Jane. Suivi à 23h05 de Dead or Alive 3.
Ah, Lutoka Chimique, oui.
Oui, oui, jeudi.
Là où ils fusionnent en beat géante à la fin.
C'est véridique. <C'est... rire>
J'espère qu'il passe après 22h30.
23h05, de toute façon.
D'accord, ok,
jeudi
ça va.
Jeudi prochain sur CinéFX à 21h, le jour où la Terre prit feu.
3
Val Gwen. Non, un Val Guest de 62, donc c'est Val Guest, c'est un anglais, hein, qui a fait, merde, je me rappelle pas, un film vachement connu, avec Janet Munro et Leo McKern, et dont les trucages sont de Ray Harryhausen. Et c'est suivi, alors là, c'est dispensable, à 22h40 du film, que le mec qui fait le réalisateur de Nagui dans Taratata, Gérard Pulicino, il a fait un film.
Ah oui, Babel, oui. Babel.
Donc c'est jeudi prochain à 22h40.
C'est sur la chaîne à deux balles donc. Ouais. Oula, le DVD n'a vraiment même pas dû se vendre.
Ouais, et un autre film vendredi avec les trucages de Harryhausen, c'est Jack le tueur de géants de Nathan Duran de 61 avec le beau Kevin Matthews, hein, qu'on a retrouvé par la suite dans des séries de Hercule et de Massiste, hein, dans,
oui, oui.
Après, il
le
est
truc
parti,
italien,
chez les Rital, et puis vas-y, ça roule quoi.
Ça roule en carton et en pierre de mousse, voilà. Bon, je suppose que du sport en infini là.
Ah bah oui.
Voilà, donc il n'est pas au courant que donc la fameuse le fameux match de finale du Mondial 2006 sera adapté au cinéma et qu'actuellement donc il y a plusieurs réalisateurs qui sont en vue, c'est un immense sketch des cahiers du football et ça continue après dans les commentaires parce qu'il y en a qui ont dit mais comment ça se fait qu'il n'est pas la version Quentin Tarantino, la version Takashi Miike, et c'est à hurler de rire, je me suis pissé dessus en le lisant, c'est absolument immense donc les différentes incarnations de Zinedine Zidane avec David Carradine, enfin bon c'est immense, c'est assez étonnant. On en parlera peut-être dans la prochaine livraison du cahier du cinéma, du cahier du football papier, pardon, excuse-moi, voilà. Tona, peux-tu faire le résumé, s'il te plaît, pour ceux qui ont pris l'émission du supplément week-end en cours de route?
Mais bien sûr, Xavier, nous avons eu un plantage sur le titre Ghost in the Shell, Stallone Complex Solid State Society. Un top 10 des BD pour Noël, Craig Freeman avec ta langue qui a fourché dessus, une chronique enflammée sur JTS, SAC, SSS, le retour de Secret d'Héritage, non, un jingle maillon faible, et on a eu aussi deux jingles zappés sur, on a raté l'alerte Q et le Docteur Who.
Merde!
Nom d'une cohue dans les magasins. Nos auditeurs ont loupé tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites. Et donc, notamment, les 10 BD sélectionnés sont déjà en ligne. Mais aussi fouiller dans nos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission. Supplementweekend.tk, c'est l'adresse que vous devez mettre dans votre Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera. Supplément week-end sans accent ni tiré .tk et voilà, et ceci dit, qu'est-ce qu'il y a après sur FMR? Eh ben, à 15h, il y a Zarma Farah, il y a 17h, ça c'est de la bonne viande, 18h, Big Bang, 19h, Happy Wo, 20h, Zéro Expérience, 21h39, Love, et à 23h, Potager. Mais de suite, c'est votre cahier sportif. Ça c'est du sport qui va prendre la suite. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec un invité. Voilà.
Et oui.
Voilà, pour le coup. Et en attendant, et bonne fête avec trois chroniques originales normalement de BD que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà. Voilà.
Mais il fallait pas le dire, ça.
Ouais, je sais. Mais nous, ici, on fait en toute transparence. Voilà. Zou, ciao, bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine et on vous laisse avec Dus qui est super labo.
Salut.
Ciao.